Eh bien, certains le pensent. L'onde de tempête amenée par le cœur de l'ouragan assaille effectivement les digues du sud du lac. Tout va très vite. Les eaux s'infiltrent bientôt dans les canaux de la ville, jusqu'à faire ployer les protections de béton. Les murs des digues, par endroits, viennent à se briser. C'est à Mirabeau Avenue que le phénomène est le plus inquiétant. Plus rien ne peut dorénavant stopper la submersion. Les eaux se déversent dans la ville. La Nouvelle-Orléans est cernée. Elle va devoir supporter le choc. Cependant, un problème de taille se dresse devant les autorités fédérales à Washington. Les médias et les organisations sur place ne se rendent pas compte que les digues ont cédé. La capitale de la nation n'est au courant de rien et les rapports qui lui sont faits sont au contraire plutôt rassurants. L'ouragan, lui, continue d'avancer lentement. En milieu de matinée, son cœur est à cheval entre la Louisiane et le Mississippi. De nombreuses villes sont dévastées sur son passage. Partout, l'eau s'infiltre, atteignant très rapidement le premier étage des immeubles. Katrina est tellement impitoyable que ses vents arrachent une plateforme pétrolière de ses fondations, entraînant son déplacement vers la côte. On parle là d'un poids de plusieurs milliers de tonnes. Le 29 août au soir, les reportages sont encore loin de la vérité. Pour les journalistes, l'eau s'est infiltrée au-dessus des digues, mais ces dernières n'ont pas cédé. On entend même ici et là que la situation est sous contrôle, que l'ouragan n'a pas été celui du siècle. Le mardi, les titres de presse nationaux se félicitent de « la chance de la Nouvelle-Orléans ». Ah bon, une chance? Vraiment? Ah, la réalité est hélas tout autre. Le lendemain de la catastrophe, l'agglomération se retrouve immergée à plus de 80%. On parle tout de même d'une ville immense où 450 000 personnes vivaient avant le drame. Les chiffres avancés d'ores et déjà sont alarmants. Une première estimation évoque le nombre délirant de 200 000 maisons détruites. De nombreux habitants reclus n'ont pas encore été secourus, victimes des eaux, et luttant pour leur survie. Cependant, la situation sur place semble enfin s'être calmée. Enfin, du moins par endroits. C'est un silence de mort qui règne alors que les équipes de secours se lancent déjà au cœur de l'horreur. Le but, sauver le plus de monde possible. Sur les toits et dans les greniers, des voix se font entendre. L'ouragan a emporté des centaines de personnes. Mais beaucoup d'autres, miraculeusement, ont tenu bon. Il n'empêche, la situation est terrible. Les chaînons du miracle se mettent alors en mouvement. Les sauveteurs, dans des barques et des bateaux, font le tour des ruines, forcent les portes d'entrée. À l'intérieur des habitations, bien souvent insalubres, des survivants qui n'attendaient plus rien de la vie. En première ligne, les pauvres de la Nouvelle-Orléans. Ceux qui n'ont pas eu les moyens de partir et qui se sont retranchés chez eux avec l'espoir de s'en sortir. Mais la ville de Louisiane n'est pas la seule concernée. Partout, même le long des côtes du Mississippi, c'est le même et implacable constat. Plus rien n'est debout. Il va falloir tout reconstruire. En Louisiane, les forces de sauvetage n'arrêtent pas de bosser. Mais sans aide extérieure, ce n'est pas suffisant. L'armée est envoyée à la rescousse. C'est un général qui se retrouve propulsé à la tête des opérations. Le général Russell Honoré, il en a connu des situations terribles. Sur son képi, 3 étoiles. Elle témoigne de son parcours et de la force de son engagement. Le militaire, très vite, lance sur toute la ville les gardes-côtes. Les forces du département de la vie sauvage et de la pêche équipées de bateaux et la marine nationale. Et ce, sans parler des policiers et des pompiers en première ligne depuis les premières ondes de tempête. La FEMA doit de son côté faire face à un problème de taille. Les opérations de sauvetage sauvent des vies, mais manquent d'une coordination centrale. Ni le maire de la ville de la Nouvelle-Orléans, ni même la gouverneure, ne semble en mesure de prendre des décisions. Et pourtant, il va falloir agir, et vite. Pour ajouter à l'urgence, l'eau, plus de 24 heures après la catastrophe, continue de se déverser dans la ville. Ça paraît dingue, mais aucun responsable politique ne sait encore que les digues ont lâché. Le manque de coordination des secours, l'incompétence politique et le déficit des renseignements vont mener à une réaction en chaîne, à la Nouvelle-Orléans plus qu'ailleurs, absolument catastrophique. H de la Nouvelle-Orléans s'est placé au cœur des étages supérieurs d'un hôtel du centre-ville. De là, il cherche à coordonner les opérations de secours. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas au point. Dans les quartiers pauvres de la ville, le chaos est devenu indescriptible. Ni l'édile, ni les autorités fédérales n'ont les clés afin de comprendre ce qu'il se passe vraiment le long des digues. Il fait chaud. Les fenêtres sont ouvertes. Constamment, des hélicoptères passent le long de l'établissement devenu QG d'urgence. Le maire, dépassé, vient de décider que les rescapés secourus doivent être amenés au stade. Mais l'enceinte, si elle a tenu le choc malgré les vents violents de Katrina, est considérablement isolée. Oh, c'est bien simple. Impossible de la ravitailler par voie terrestre. Et à chaque rescapé acheminé, on augmente le nombre de personnes qui s'y trouvent. Ces dernières viennent à manquer d'eau et de nourriture. Trois jours que les premiers évacués ont pris place dans les gradins. Mais bientôt, il n'y a justement plus assez de place. Certains commencent à s'installer aux abords du bâtiment. Les canalisations ont lâché, bouchant les sanitaires et emplissant l'enceinte sportive d'une odeur insupportable. Mais c'est pas tout. Voilà que le responsable politique reçoit une nouvelle très préoccupante. Le centre des conventions de la ville, plus ou moins préservé, a vu arriver une nasse très importante de réfugiés. Ce n'est pas une zone d'abri officielle. Et pourtant, voilà qu'ils sont 25 000 à s'y presser, sans aucun moyen, ni de se sustenter, ni d'être guidé par les autorités. L'édile ne fait rien, ou si peu. La gouverneure, elle non plus, n'est pas au niveau. Le chaos s'installe, ouvrant la voie à plusieurs jours d'enfer et d'incertitude. Des milliers de malheureux ont besoin de nourriture, d'eau, de médicaments, zones le long des routes, sans qu'on puisse leur venir en aide. Sans compter le fait que la ville se retrouve face aux soucis liés aux inondations. Les brèches dans les digues sont enfin repérées par l'armée. La terrible découverte ne change rien. Il est impossible de les combler rapidement. L'évacuation de dizaines de milliers de réfugiés pour couronner le tout devient une véritable urgence. 48 heures que l'ouragan est parti. 48 heures qu'ils s'entassent les uns sur les autres. Au bout de la nuit, le maire, inquiet, décide d'ordonner l'évacuation du stade. Mais il n'en a pas les moyens. Il va falloir des jours supplémentaires pour que les pauvres malheureux puissent en quitter les gradins. Plus encore que Katrina, c'est la gestion de ses conséquences qui est catastrophique pour la ville et pour l'État. La résolution des événements est pointée du doigt. Tous les niveaux de compétences vont devoir se regarder dans la glace, de la présidence aux élus locaux, en passant par les agences gouvernementales spécialisées dans la gestion de telles crises. L'horreur aurait-elle pu être évitée? Les opérations de sauvetage mieux menées? Les Américains, eux, ne cherchent qu'une chose, obtenir des réponses. Premier des organismes gouvernementaux aux avant-postes, la FEMA, se retrouve face à une situation ubuesque. L'accès à la ville est bloqué. L'agence ne peut pas communiquer. avec les forces étatiques et locales. Bref, son savoir-faire et ses équipements ne sont pas employés. Du moins, pas assez bien. Cette situation est inadmissible. Le président Bush, ne comprenant certainement pas bien la gravité des faits, décide de mettre fin à ses vacances. Il rentre à Washington plus de 48 heures après l'impact. Son absence en première ligne est critiquée. Il n'y en a qu'un qui, au milieu du marasme, semble faire l'unanimité. Le général Honoré, c'est lui, qui fait bouger les lignes, tense le maire et les secours sur place. L'armée des États-Unis est dans la place. Cela n'est hélas pas suffisant. Dans la ville, pillages et catastrophes humaines se multiplient. Devant le manque de ravitaillement et d'aide, chacun joue sa peau. La situation est si critique que le maire, désemparé, intime aux forces de police de ne plus aider les équipes de secours. Au lieu de ça, les agents doivent se rabattre sur les missions de maintien de l'ordre. C'est peine perdue. Ils sont des milliers à se ruer dans les magasins. La garde nationale, elle, dépend de la gouverneure. Et cette dernière, contre toute attente, décide de laisser les gardes nationaux auprès des secouristes. C'est un véritable capharnaüm. Les pires rumeurs se propagent. Meurtre, viol, agression. Des bruits courent dans les médias. On évoque même le fait que 200 personnes ont tué ou blessé dans le stade, en attente d'évacuation. Mais ces rumeurs, qui ajoutent à la panique, sont fausses. Si dans le stade, la situation est tendue, on ne trouve pas 200 victimes. Ce chiffre est très exagéré. 6 personnes viennent à mourir dans l'enceinte, dont une par overdose et une autre par suicide. Six morts de trop, c'est certain, mais nous sommes loin des 200. La catastrophe est innommable. Les Américains, ahuris, se rendent compte dans tout le pays que les autorités ne sont pas à la hauteur. L'horreur étayée dans les médias enjoint certains particuliers à monter d'eux-mêmes des opérations de ravitaillement et de sauvetage. L'intention est louable, évidemment, mais rajoute souvent des couches de complexité pour les agents sur place. 2 jours après le drame, Bush propose à la gouverneure d'intervenir directement, le tout en faisant basculer l'autorité de la garde nationale vers les agents fédéraux. Elle refuse. Cela aurait pourtant grandement facilité les opérations. Pourquoi, dans ce cas, refuser la main tendue par le président? Cela se résume en 2 petits mots. Influence politique. Comprendre qui est responsable des opérations est difficile. Il faut dire que la faillite politique est présente à tous les étages. De la FEMA au maire, de la garde nationale à la gouverneure, des militaires aux policiers, personne ne se coordonne correctement. La perte de temps est terrible et de nombreuses vies perdues auraient certainement pu être sauvées. Pour l'illustrer, prenons un cas de figure. Les 20 000 réfugiés du stade n'ont pas pu être tout évacués durant 3 jours, alors que la Croix-Rouge propose son aide et ses véhicules au général Honoré. Afin d'accélérer le processus, ce dernier refuse pour raison de sécurité. Les digues et les systèmes de pompage, de leur côté, ne seront remis en route qu'après des semaines. 11 jours après le passage de Katrina, la moitié de la ville est toujours sous l'eau. La faillite collective est totale. Pas de communication, une bureaucratie inadaptée et meurtrière pour celles et ceux en situation d'urgence. Le maire tire à balles réelles dans des interviews sur des agences fédérales. La FEMA charge la mairie et la gouverneure. Au centre de la tempête, le président Bush décide de taper du poing sur la table. Mais le mal est fait. Une réunion est provoquée entre le maire de la ville, la gouverneure et le président. Mais ce dernier ne parvient pas à obtenir un accord avec la gouverneure qui souhaite garder la main. Les tensions entre les parties sont de plus en plus palpables. Toutes ces déficiences condamnent la zone touchée par l'ouragan à de grandes difficultés. Sur le million de personnes évacuées, bon nombre ne reviendront jamais. La Nouvelle-Orléans, à elle seule, a perdu la moitié de ses habitants. Restant aujourd'hui, 20 ans après le drame, une zone on ne peut plus sinistrer. Le bilan humain et matériel de la catastrophe est terrible. plus de 1800 morts, qui s'accompagne d'un peu moins de 1000 disparus. Il faut ajouter à cela des milliers de blessés et 1,5 million de déplacés. Matériellement, les dégâts se chiffrent à près de 125 milliards de dollars, dans lesquels on retrouve 300 000 habitations détruites ou gravement endommagées. C'est bien simple. Katrina est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis.